Et nous abordons maintenant la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Vous vous souvenez que Paul avait des problèmes avec l'église des Corinthiens, avec leur église. Il avait créé cette église lors de son deuxième voyage missionnaire. Et puis, on peut lire ça dans Actes 18. On ne va pas s'y tourner, ce serait trop long. Il y a passé près d'un an et demi. Puis après, il est passé à Éphèse, avant de rentrer à Jérusalem. Et on pense que de Éphèse, il avait écrit une première lettre qui n'a pas été conservée. Mais une fois qu'il est revenu ensuite à Éphèse, où il est resté 2 ans et demi, et là il avait appris par des nouvelles qu'il y avait de sérieux problèmes à Corinthe. Il avait reçu une délégation qui lui amenait des nouvelles et aussi des questions. Et donc il a écrit une deuxième lettre. Et c'est cette lettre que nous appelons la première lettre aux Corinthiens. Alors ensuite, on essaye d'interpréter d'après les différents passages la chronologie des autres rapports de Paul avec cette église. Ça devient un peu technique. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir et on peut en parler. Mais sachez qu'il a écrit une troisième lettre qu'on n'a pas conservée. Vous vous souvenez qu'à Éphèse, Paul avait dû quitter la ville sous la menace des orfèvres. Parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leur breloque à la gloire de Diana. De Diane. Et donc, il était parti vers Troas où il espérait retrouver un de ses collaborateurs, Tite. Ils se rejoignent finalement tout au nord de la Grèce, la région qu'on appelle la Macédoine. Et ce collaborateur lui donne de bonnes nouvelles de l'Église. Mais des mauvaises nouvelles dans le sens qu'il y a toujours un groupe qui s'oppose à Paul et qui critique son autorité. Et c'est l'occasion d'écrire pour Paul cette quatrième lettre que nous appelons 2 Corinthiens. Lorsqu'on pense à Paul, on pense à un des géants de l'histoire spirituelle chrétienne. Et on pense qu'il est au-dessus du commun des mortels. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je suis sujet à des dépressions spirituelles si effrayantes que j'espère qu'aucun d'entre vous n'aille aussi bas que moi dans de tels extrêmes de misère. » I'll translate that. I am the subject of depressions of spirit, so fearful that I hope none of you ever get to such extremes of wretchedness as I go to. Et celui qui a dit ça, c'est pas un chrétien qui rétrograde, qui n'allait plus à l'église. C'était le fameux pasteur anglais Charles Spurgeon. Comme le dit notre pasteur Wayne Taylor, nous avons tous le même défi devant nous. Et en cette semaine, après les attentats de New York, de Washington, la catastrophe de Toulouse, Une vérité, c'est que la vie est dure. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? La vie est dure. Il y en a qui trouvent que la vie est facile? La vie est dure. C'est une réalité. L'autre réalité, c'est que Dieu est bon. Peut-être que dans ces moments de souffrance, on a des doutes. Mais nous ne devons jamais douter de la bonté de Dieu. Paul, on le verra plus loin dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, disait « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Et pourtant, il n'a pas un mot d'amertume. On étudiera plus en détail, mais nous pouvons lire ensemble les versets du chapitre 11 qui racontent un peu les épreuves que Paul a subies. 2 Corinthiens 11, 23. Il parle de ceux qui s'opposent à lui en disant « Sont-ils serviteurs de Christ ?» Je parle en termes extravagants. « Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les emprisonnements bien plus, par les coups bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'océan. » Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Paul savait ce que c'était que le stress. Et pourtant, au verset 16 du chapitre 4, toutes ces épreuves, il va les mettre en perspective. Il va nous dire que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Si on devait résumer cette lettre, le thème de cette lettre, ça serait « Soyez encouragés ». Soyez encouragés. Nous pouvons recevoir ce message de la part de Paul parce que lui aussi a subi de multiples épreuves. J'aimerais qu'on lise ensemble les versets 1 à 11. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, De même aussi, notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre écart est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière, ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Nous allons nous arrêter là. Et donc, nous le verrons au fur et à mesure de notre étude, que Paul écrit cette lettre, d'une part pour défendre son ministère qui est attaqué, il écrit pour encourager, nous avons dit que c'était le thème principal, nous verrons aussi qu'il va écrire pour encourager les Corinthiens à participer à la collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Et autant la première lettre aux Corinthiens était une lettre assez dure, où il critiquait, il remettait les choses en place. Le sujet, c'était l'Église avec ses problèmes et sa rébellion. Ici, c'est une lettre beaucoup plus personnelle. On va voir le cœur de Paul, ce qui se passe dans sa vie. Et donc, il commence en disant qu'il est apôtre du Christ Jésus. Comme vous le savez, un apôtre, c'était quelqu'un qui était envoyé. Quelqu'un qui était envoyé avec une mission. Un peu comme un ambassadeur. Quelqu'un qui représente quelqu'un d'autre. Et là, il explique qu'il est apôtre du Christ Jésus, non pas parce qu'il a fait une école d'apôtre. Ou parce que l'Église a décidé qu'il était apôtre. Mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Et dans votre vie, ce qui compte, c'est d'être là où Dieu vous veut. Vous pouvez dire Sébastien, informaticien par la volonté de Dieu. Paul, docteur par la volonté de Dieu. Sébastien, collégien par la volonté de Dieu. L'autre. Ce qui compte, c'est d'être là où Dieu vous veut, pas nécessairement là où les choses sont le plus faciles. Et peut-être parmi vous, il y en a qui souhaiteraient être ailleurs. Mais si la volonté de Dieu est que vous soyez ici, réjouissez-vous. Timothée, c'était son jeune protégé qui était un peu timide. Mais s'il le considère comme un égal, il l'appelle le frère Timothée. Il écrit à l'Église de Dieu. « C'est Dieu, c'est Jésus qui bâtit son Église. Il n'est pas question de dire l'Église de Pierre ou l'Église de Christophe Alling ou notre Église. L'Église, elle appartient à Dieu. Et l'Église de Dieu à Nice, ce sont toutes les assemblées qui se réclament de lui en esprit et en vérité. L'Église de Dieu qui est à Nice. Il écrit à tous les saints. Ça ne veut pas dire des géants spirituels. Simplement des chrétiens. Ça veut dire des gens mis à part pour Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, nous savons que c'est la faveur de Dieu, sa bonté, sa bienveillance, ses bonnes dispositions. Toutes ces choses que nous ne méritons pas, et encore plus important, que nous ne pouvons pas mériter. Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, sa grâce, ça se reçoit ou ça se rejette. Avec la grâce, il y a toujours la paix qui suit dans les formules de Paul, la grâce et la paix. La paix, c'est la présence du Seigneur qui nous calme, qui nous réjouit. On a dit que la paix, c'était la joie qui se reposait. Et la joie, c'est la paix qui danse. Paul leur écrit en leur souhaitant la grâce et la paix. Et il commence, au lieu de se plaindre de ses problèmes, il commence par louer le Seigneur. Il le bénit. Il fait son, on pourrait dire grammaticalement dans le texte original, il fait son eulogie, c'est-à-dire qu'il dit du bien d'eux. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va voir au cours de ce passage que les souffrances peuvent accomplir trois choses. Nous voyons dans ce verset que premièrement, l'expérience des souffrances, elle nous met en présence de Dieu et de ses qualités. Lorsque l'on voit un coucher de soleil spectaculaire, une nuit étoilée sur une neige qui scintille, on a un sentiment de la beauté de Dieu. Une tempête sur l'océan, des grondements de tonnerre, nous font penser à sa puissance. Mais il y a des qualités de Dieu qu'on ne peut découvrir qu'à travers les épreuves. Et ici, nous voyons que par les épreuves, nous réalisons que Dieu est le Père compatissant. Autrement dit, il est le Père des compassions, Père des miséricordes, Père des bontés. Père en hébreu, ça voulait dire celui qui est à l'origine d'eux. Et Et dans le Nouveau Testament, on utilise des fois cette expression pour dire que, par exemple, Satan est le père du mensonge. Ça veut dire qu'il est à l'origine du mensonge. Ou peut-être que si vous mentez souvent, vous devez demander peut-être qui est mon père. Mais ici, il est dit que Dieu est le père des compassions. Il est le Dieu de toute consolation. Un autre titre, le Dieu de toute consolation. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans l'épreuve? Est-ce que vous mettez à boire? Ou peut-être que vous allez voir tous vos amis et vous racontez tous vos malheurs à qui veut bien les entendre? Ou peut-être vous allez vous faire votre passe-temps favori, vous livrez à votre péché favori. La question, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis dans l'épreuve? Si vous voulez être consolé, il n'y a qu'une direction. C'est d'aller vers Dieu. En lui, il y a toutes les consolations. C'est lui qui va vous réconforter. Il y a aux États-Unis un whisky qui s'appelle le réconfort du Sud. Mais je peux vous garantir que le réconfort que ce whisky va vous donner ne dure qu'un temps très court. Nous avons chanté tout à l'heure un chant tiré de Lamentations 3, 22 et 23. Qui dit ta bienveillance éternelle durera toujours, tes bontés ne sont jamais épuisées, chaque jour tu les donnes, toujours nouvelles, grande est ta fidélité. Et j'aime bien notre pasteur Wayne parlant de ce passage, dit qu'en fait c'est la même idée, les bontés, c'est le même mot que les consolations, les compassions du Seigneur. Et il dit c'est comme si chaque matin le Seigneur s'était levé de très bonne heure. Et il avait fait tout un plat de compassion. Des bontés. Qui sentent bon, comme du croissant frais, et qu'il vous offre chaque matin. À vous de partager, de prendre cette consolation. L'épreuve nous fait réaliser qu'en Dieu, nous trouvons l'amour, la compassion. L'expérience de la souffrance, elle accomplit une deuxième chose. Elle nous met en présence de cette compassion. Et ce réconfort, ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule. Vous savez, quand on vient superficiellement vous dire oh, « Allez, ça va aller. » Ça rappelle un peu lorsque les enfants sont petits et qu'on les console en faisant un bisou sur le bobo. Non, la compassion dont il est question serait mieux traduit aussi par « réconfort ». Le mot français vient du latin qui veut dire avec force. quelque chose qui vient nous donner du courage. Et ce mot de consolation, il est répété dans ce passage une dizaine de fois. Et c'est le mot parakaleo. Alors, c'est pas pour parler grec, mais c'est pour vous rappeler que c'est le nom donné à l'Esprit Saint. En français, on parle des fois du paraclé. Ça vient du mot grec parakaleo. Ça désigne celui qui vient auprès de vous pour vous soutenir, pour vous encourager. C'est un peu comme ces remorqueurs qui viennent auprès d'un paquebot pour l'aider à rentrer dans le port. Ou c'est aussi le terme qui était utilisé pour désigner l'avocat qui venait prendre votre défense. Et donc, lorsque nous sommes dans la souffrance, si nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons sentir cette présence qui vient à côté de nous pour nous soutenir, pour nous fortifier. Le Seigneur est une aide au temps de la détresse, dit le psalmiste. Une aide très présente. Et le mot en hébreu veut dire quelque chose de très fort. Quelque chose qui est immédiat. Même si les secours sont rapides, nous savons qu'ils prennent toujours du temps. Sachez que dès que vous vous tournez vers le Seigneur, il est là. Même ces personnes qui ont vu cette boule de feu qui venait sur eux, le Seigneur était déjà là. Finalement, la souffrance, elle a un autre but. C'est important de le réaliser lorsque les gens nous demandent « Mais pourquoi tant de souffrances autour de nous ?» Le verset 4 nous l'explique. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, pardon, verset 4, « Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, pas seulement certaines, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » L'expérience de la souffrance, elle nous permet de consoler ceux qui vont souffrir après nous. C'est vrai que si vous avez déjà fait une expérience douloureuse, tragique, vous êtes en meilleure position que quelqu'un qui n'a pas subi ces mêmes épreuves. Pour aller encourager quelqu'un qui traverse une épreuve donnée. Si vous avez perdu un être cher, alors vous pouvez aller vers la personne qui perd un être cher avec l'expérience de votre douleur qui va être encore un meilleur encouragement pour l'autre. Pourtant, il est important de bien noter, verset 4, il est parlé que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. pas besoin d'avoir souffert exactement la même chose que quelqu'un pour la consoler. Dieu merci. Parce qu'il y a 5000 familles ou 6000 familles qui ne pouvaient trouver aucun réconfort vu que c'est la première fois des gens meurent par un attentat au Boeing. Et n'imaginez pas que pour aller encourager des prisonniers, il faut que vous aussi vous ayez été emprisonné. Que vous soyez un meurtrier pour aller encourager les meurtriers. Le Seigneur peut vous préparer à encourager certaines personnes. Mais ne pensons jamais que je peux pas aider Thierry parce que j'ai jamais eu ce genre d'accident. J'ai jamais cassé ma planche à voile en deux en prenant des écharpes dans les pieds. Voyez l'idée. La compassion, c'est cet amour vers l'autre. Et le désir de le tourner vers le Seigneur. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Là, il y a un merveilleux principe spirituel. En physique, il y a un principe qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction, qui fait que lorsque je pose ma Bible sur ce pupitre, il y a une force opposée qui est générée ou qui est exercée par le support. Et ça, c'est ce qui permet la stabilité du système, l'équilibre du système. Et de la même façon, spirituellement, si les souffrances augmentent, si elles abondent, alors la consolation va augmenter, va abonder. Ça nous rappelle Paul qui disait « Là où le péché a augmenté, la grâce a surabondé ». Mais un peu à la façon de la loi physique de l'action et de la réaction, sachez que c'est au moment de l'action et de la réaction, du moment où on pose la Bible sur le pupitre, que la force va être exercée. La force n'était pas exercée 3 jours avant. Et de la même façon, la grâce, la consolation que Dieu nous donne, bien souvent, et la plupart du temps, presque toujours, elle est donnée au moment même où vous en avez besoin. On raconte l'histoire d'un condamné à mort par le feu, au temps de la Réforme. Et dans sa prison, il avait tellement peur qu'il essayait de mettre son doigt dans la flamme de la bougie pour voir s'il allait résister. Et il n'y arrivait pas, il ne pouvait pas laisser son doigt brûler, la douleur était trop forte. Et pourtant, au moment où il a dû aller sur le bûcher, ceux qui ont été autour ont vu qu'il avait la force de louer le Seigneur sur ce bûcher. Christ est là au moment de l'épreuve. Lorsque nous voyons ces choses terribles qui viennent de se passer, on se demande mais comment ne pas être complètement anéanti, détruit, comment nous aussi ne pas sauter par la fenêtre ? Si la souffrance abonde, alors notre consolation abonde aussi. Le problème, c'est que trop de chrétiens, en fait, et moi-même bien souvent, nous réagissons comme le monde. Et face aux épreuves, notre réaction, c'est de demander que ces épreuves disparaissent. Et même dans nos prières, lorsque nous prions dans les situations et des épreuves, on a souvent tendance à prier à ce que l'épreuve disparaisse. Plutôt que de demander à Dieu de nous fortifier dans l'épreuve. On voudrait que ça disparaisse comme par magie. Et pourtant, si on est dans l'épreuve et qu'on se tourne vers Dieu, alors là, il nous aide. Quelqu'un faisait remarquer que c'est incroyable lorsqu'on fait de la voile. Le vent souffle dans une direction. Un bateau ira vers la droite. Un bateau ira vers la gauche. Le vent des difficultés, des épreuves peut souffler. Et si on se tourne vers le Seigneur, on peut aller vers lui, on peut être consolé, réconforté, fortifié. Ou alors on peut s'éloigner de lui. Et dire en sorte que Dieu n'est pas fidèle, que la Bible n'est pas vraie, qu'on ne peut pas recevoir l'aide qu'il faut. Lorsqu'il est question ici des souffrances de Christ, il n'est pas question des souffrances qu'il a subies à la croix. Ces souffrances, elles ont été faites une fois pour toutes. Par ces souffrances, nous sommes rachetés. Il a pris à notre place la punition que mérite notre péché. Il a souffert pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il est question de la souffrance de la tête lorsque le membre a mal. Si on me marche sur le pied, j'ai mal ça me fait mal dans ma tête. Vous vous souvenez lorsque, c'est pas encore Paul, c'était Saül, il persécutait l'Église, il avait entendu la voix de Christ qui lui disait, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Les souffrances que recevait l'Église, c'était les souffrances que ressentait le Christ. Il y a une fausse doctrine qui est très populaire, qu'on appelle la doctrine de la prospérité, qui est enseignée dans certaines églises ici à Nice même, qui dit que si nous sommes avec le Seigneur, alors tout va être parfait. Pas de souffrance, pas de pauvreté. Ce qui est complètement faux. C'est une hérésie. Paul disait dans Philippiens 3:10 que son but c'était de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, verset 6, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Paul était tellement près de Christ dans sa vie. Que lorsqu'il souffrait et qu'il était consolé, il ne disait pas « Dieu merci, je suis consolé ». Il disait « Dieu merci, je vais pouvoir consoler quelqu'un d'autre ». Christ aussi, du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été tenté, peut secourir ceux qui sont tentés, nous dit Hébreux 2:18. Les souffrances, il faut les endurer, verset 6. L'idée, c'est de se tenir dessous, sachant que Christ est à nos côtés. Notre espérance à votre écart est ferme, verset 7. Nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. On aimerait éviter les épreuves. Mais c'est dans les épreuves que nous grandissons. J'avais déjà parlé de l'idée d'un enfant qui aide un papillon à sortir de son petit cocon. Il lui fait pas une, il l'aide pas vraiment. Parce que normalement, Dieu a fait ainsi que le papillon doit se débattre lui-même ses ailes pour se fortifier. Et être avec les autres dans les épreuves, c'est une chose. Éviter les épreuves aux autres, lorsque c'est Dieu qui les a prévues, ça peut être très, très négatif. Vous vous souvenez lorsque Jésus voyait les disciples qui étaient pris dans la tempête, qu'ils avaient du mal à ramer et avancer dans la tempête et dans la nuit, il n'est pas venu tout de suite à leur secours. Il les a laissés se débattre. Verset 8. Et à 11, Paul donne l'exemple même de souffrance pour Christ. Et il raconte, il dit, « Je ne veux pas vous laisser en effet ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans ce passage pour parler de la tribulation, de l'affliction, de la souffrance. Les mots utilisés pour affliction et tribulation, c'est le même mot grec qui fait référence à une pression qui est exercée sur vous. Ce qu'on appelle le stress. Mais une pression très forte. Il y avait même un supplice en Angleterre, au Moyen-Âge, où on mettait des poids sur une personne jusqu'à ce que la personne soit complètement écrasée. C'est ça l'idée, la tribulation. Paul ne nous donne pas de détails ici. Et ça a deux avantages. Premièrement, ça nous fait comprendre que ce n'est pas seulement dans telle ou telle sorte de souffrance, mais c'est dans toutes les souffrances en général qu'on peut trouver cette aide. Et deuxièmement, ça nous montre qu'on ne doit pas aller raconter en détail tout le, par le menu détail toutes nos souffrances et nos épreuves. Il y a des gens, on dirait des anciens combattants. Veterans, or des gens qui ont été opérés à l'hôpital, qui vous racontent par le menu leur opération, les... C'est pas pour Ellie que je dis ça. Paul ne fait pas ça. Mais en même temps, il ne les laisse pas ignorer qu'il a eu des problèmes. Et on peut avoir ce problème aussi de ne rien partager. Et certains d'entre nous, lorsque ça va mal, plutôt que de, d'en parler pour qu'on puisse prier sans donner nécessairement tous les détails, ils vont se retirer, on ne va plus les voir. Et ils vont être de leur côté tout seuls. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Ce qu'il veut, c'est le verset 8 qui dit « De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Le mot « désespérer », ça veut dire ce, ne plus avoir de sortie de secours. Un peu comme ces personnes qui décidaient, plutôt que de mourir brûlées, décidaient de sauter par la fenêtre parce qu'ils n'avaient plus de sortie de secours. Verset 9, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Un des autres buts de la souffrance, c'est de nous amener à la fin de nous-mêmes. Non seulement la souffrance nous apprend à découvrir Dieu, sa compassion. La souffrance nous permet d'aller aider ceux qui souffrent. Mais la souffrance fait que nous nous tournons vers Dieu. Et si nous ne nous tournons pas vers Dieu, alors Dieu doit des fois utiliser la souffrance. Aux États-Unis, nous avons vu des, même dans les médias français font état des grands rassemblements de prières. Dans les églises, mais aussi dans les parcs, de façon impromptue, improvisée. Quelqu'un a dit, pour chaque prière qui s'élève vers Dieu dans les moments de prospérité, il y en a 10 000 dans les moments d'adversité. C'est Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Ça nous rappelle un peu la foi d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils Isaac, ce fils que Dieu lui avait promis, et dont il avait dit que par lui arriverait le Sauveur, que toutes les nations seraient bénies. Et lorsque Dieu lui a demandé de le sacrifier, il est dit dans Hébreux qu'il faisait confiance à Dieu, au Dieu puissant qui est capable de ressusciter les morts. Et donc Paul était, on ne connaît pas les circonstances exactes, on ne sait pas si c'est à la suite de l'émeute des orfèvres. Mais il pensait vraiment qu'il allait mourir. Et il faisait confiance au Dieu qui peut même ressusciter les morts si c'est sa volonté. Et verset 10, c'est lui qui nous a délivrés, nous délivrera d'une telle mort, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Une délivrance passée. Deliverance. And, une délivrance future. Dieu nous sauve dans le passé, nous a sauvés, il nous sauve aujourd'hui, il va nous sauver. Il nous a aidés avant même que nous le connaissions. Il va toujours nous aider. C'est son amour, c'est sa compassion. Et verset 11 est très important. Vous-même aussi, nous assistant par la prière, ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. L'importance de la prière pour les autres. Le mot qui est traduit par « vous êtes comme des assistants avec vos prières », c'est un mot composé qui veut dire « travailler avec par-dessous ». Donc c'est un peu comme s'il y a ces épreuves. Dieu peut me consoler. Mais vous-même, par vos prières, vous pouvez venir m'aider. Vous mettre en dessous de ce fardeau, de cette épreuve. Et comme qui dirait, travailler avec moi à résister. Les souffrances nous rappellent que nous sommes tous membres d'une famille, que nous avons besoin les uns des autres. Je prie vraiment que nous comprenions mieux l'importance de la prière. On devrait avoir plus de monde pour la prière que pour un barbecue. C'est pas une question d'être légaliste ou d'essayer de vous forcer. C'est pour que vous réalisiez l'importance de la prière. Et maintenant que les moments semblent adverses, prions davantage. Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire du concours entre le vent et le soleil. Il regardait un homme qui marchait dans la rue, habillé d'un gros manteau. Et le vent dit, je te parie que je peux lui faire enlever son manteau en soufflant très fort. Le vent se met à souffler de façon terrible. L'homme est presque renversé, mais il se blottit dans son manteau. Et plus le vent soufflait fort, et plus il serrait son manteau dans ses mains, dans ses bras. Plus il s'emmitouflait dans son manteau. Le soleil dit, à mon tour. Et il brilla si fort qu'en quelques instants l'homme eut trop chaud. Il enleva son manteau. Généralement, le vent de l'adversité ne nous sépare pas de Dieu. À la lecture de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous ne devons jamais nous séparer de Dieu. Dans les épreuves, nous nous tournons vers Dieu. Encore une fois, les églises sont pleines aux États-Unis. Peut-être un peu plus ici, je ne sais pas. C'est quand les choses vont bien que nous sommes en danger. Le danger de la prospérité, c'est de nous faire penser que nous sommes indépendants de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à souffler des épreuves. Il veut que nous venions à lui, il veut que nous nous repentions. La semaine dernière, Linda Pitom m'a montré un passage qui était en rapport avec les événements de New York. Ça se trouve dans Luc 13, verset 4. Jésus prenait l'exemple d'une tour qui s'était abattue, qui avait tué des gens. Et il disait, il y avait 18 personnes qui avaient été tuées. Ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ce n'est pas une question que ces 5000 personnes qui ont été, ou 6000 personnes qui ont été tuées à New York. Où les 25 ou 50 à Toulouse ont été punis pour leurs péchés. Nous savons que Dieu est juste, nous ne savons pas ce qu'il va faire avec eux, mais ne nous soucions pas de ça. Soucions-nous de revenir à Dieu, de nous repentir, c'est-à-dire de faire demi-tour et d'aller vers lui au lieu d'aller de s'éloigner de lui. Sinon, nous périrons tous. Dieu veut vous encourager. Lorsque les épreuves arrivent, tournons-nous vers lui. Ne pensons pas qu'il est un Dieu injuste. Nous pouvons penser ce que nous voulons, mais nous savons qu'il nous aime. Qu'il sera là dans l'épreuve, prêt à nous donner la force suffisante. Amen.